Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 mars 2024, du mercredi 6 mars 2024. Il est 5h30 temps universel. Voici le sommaire. Ici aux États-Unis, les électeurs de 15 États ont voté hier pour désigner leurs prétendants démocrates et républicains à la présidentielle de novembre. Un raz-de-marée pour le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump.
Le peuple a décidé, le peuple américain a décidé. Jusque-là, il y a plus de 10 États qui ont déjà voté. Les résultats sont déjà sortis. La victoire est là.
Les enseignements à tirer, c'est qu'il y a une moins forte participation à ces primaires. Mais des deux côtés, il y a d'autres problèmes.
À suivre, la réaction du républicain et partisan de Donald Trump, Junior Bonpetti, et l'analyse de l'historien Mohamed Mbodj. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Holognon et l'actualité sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, le journal. Des millions d'Américains ont voté hier soir lors du Super Tuesday pour désigner leurs prétendants démocrates et républicains à la présidentielle de novembre. L'ancien président Donald Trump a déjà remporté les primaires républicaines de 12 États sur 15 enjeux et Joe Biden les 12 des États en jeu selon les projections des médias américains. Le point avec Nani Talani.
L'ancien président Donald Trump est donné vainqueur en Virginie, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Maine et dans l'Arkansas face à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley. Il a également remporté le Massachusetts, l'Alabama, le Minnesota, le Colorado et le Texas, l'un des États les plus peuplés du pays. Nikki Haley a toutefois privé Donald Trump du Grand Chelem en remportant le Vermont, un État peu peuplé, frontalier du Canada. Côté démocrate, sans surprise, le président Joe Biden, 81 ans, qui brigue un second mandat, a déjà remporté 12 des États en jeu, ainsi que l'Iowa, qui organisait un vote par correspondance ces dernières semaines. Joe Biden ne fait face à aucune opposition sérieuse. Les candidatures de deux démocrates lancées à sa poursuite, l'élu du Minnesota, Dean Phillips, et l'autrice à succès, Marianne Williamson, n'ont jamais vraiment suscité d'enthousiasme, malgré les critiques récurrentes sur l'âge du président ou son soutien à Israël. Le Super Tuesday est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 États organisent simultanément leur primaire pour la présidentielle.
Donald Trump a salué une soirée formidable après sa victoire dans une dizaine d'États lors des primaires républicaines du Super Tuesday. Cela a été une soirée formidable, une journée incroyable, a-t-il affirmé devant ses partisans réunis dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Pour ses partisans, il est désormais temps de faire bloc dans le camp républicain pour remporter la présidentielle en novembre. Écoutons Junior Bonpetti, militant républicain et fondateur du mouvement Congolese for Trump.
Pour nous les républicains, c'est encore réconforter la position de Donald Trump pour être notre nominé, pour être candidat des républicains. Le peuple a décidé, le peuple américain a décidé, et jusque-là, il y a plus de 15 États, ou même 10 États qui ont déjà voté, les résultats sont déjà sortis, donc la victoire est là. Il est temps que le parti puisse être réunifié, rassemblé, et nous voir la même direction, et pour que l'on puisse gagner Joe Biden en novembre. Donc je pense que c'est le moment que Madame Nikki Haley puisse reconnaître que le peuple a parlé, les urnes ont parlé en faveur de Donald Trump, et que maintenant nous avons besoin que le parti redevienne uni et gagner la victoire ultime novembre.
Junior Bonpetti, militant républicain et fondateur du mouvement Congolese for Trump. Si les victoires de Joe Biden et Donald Trump ne faisaient aucun doute, certains experts s'interrogent sur la participation en baisse lors des primaires et surtout sur la montée d'un vote contestataire autant chez les démocrates que chez les républicains. Écoutons l'analyse de Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York.
Les enseignements à tirer, c'est qu'il y a une moins forte participation à ces primaires, mais des deux côtés, il y a d'autres problèmes. Par exemple, Biden a eu beaucoup de votes, disons, non engagés contre lui, une sorte de vote de protestation. Tandis que quelquefois, les pourcentages de Nikki Haley, comme en Virginie ou en Vermont, sont assez surprenants et assez importants et montrent que peut-être il y a une frange du Parti républicain qui ne suit pas fidèlement Trump. Il y a aussi que peut-être ceux qui votent pour Haley sont les indépendants, donc des électeurs sur lesquels peut-être Trump va faire une croix une fois novembre venu. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme premiers enseignements de ce mardi, de ce super mardi ou mardi exceptionnel.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur l'affaire de l'avocat maître Guy Hervé Kam, interpellé il y a un peu plus d'un mois. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État à travers la mobilisation d'étudiants et de notables coutumiers, a révélé hier l'agent judiciaire de l'État. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'avocat Guy Hervé Kam est poursuivi, selon l'agent judiciaire de l'État, pour atteinte à la sûreté de l'État et ce, à travers la mobilisation d'étudiants et de notables coutumiers, affirme le représentant du gouvernement cité par des médias locaux. Et l'agent judiciaire assure que l'avocat soit entre les mains de la division de la surveillance du territoire ou d'une maison d'arrêt. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il est entre les mains de l'État. Le conseil de maître Kam a ce procès sur le référé liberté de leur client devant le tribunal administratif a demandé au juge de constater qu'il y a une violation des droits et libertés de l'avocat. Le représentant de l'État a annoncé une action pénale en cours, précisant l'incompétence du tribunal administratif pour ce type de dossier. Mais les avocats de maître Guy Hervé Kam, qui a été interpellé depuis le 24 janvier dernier à l'aéroport de Ouagadougou, disent le contraire. Le délibéré du dossier a été renvoyé à jeudi prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Sénégal, l'opposant Moussa Diop a été remis en liberté provisoire mardi après plus de deux mois de détention pour offense au chef de l'État. Avocat, ancien responsable du parti présidentiel, passé ensuite à l'opposition, il a bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, a affirmé son conseil Moussa Sarr. Monsieur Diop avait été écroué le 10 décembre après avoir porté des allégations démenties par les autorités sur une exploration de diamants impliquant selon lui le président Macky Sall. Sa libération a lieu dans un contexte d'apaisement des tensions né du report de la présidentielle pour laquelle une nouvelle date est attendue. Plusieurs centaines de détenus ont été libérés depuis mi-février. Au Libéria, la Chambre basse du Parlement a approuvé hier une motion visant à mettre en place un tribunal des crimes de guerre, un tribunal attendu depuis plus de 20 ans après la fin de la guerre civile. Plus de détails avec Chimel Gandounou.
La résolution a été adoptée et la justice est enfin rendue au peuple libérien, a déclaré Jonathan Fonati Kofa, président de la Chambre des représentants. Plus des deux tiers de la Chambre ont voté en faveur de la résolution qui va être débattue par le Sénat avant d'être transmise au président Joseph Boakai. Monsieur Boakai a annoncé le projet de créer un tel tribunal lors de son discours de prestation de serment en janvier. En 2009, la Commission Vérité et Réconciliation avait aussi recommandé la création de ce tribunal qui est resté lettre morte. Certains anciens chefs de guerre, dont le sénateur Prince Johnson, n'ont jamais eu à répondre de leurs actes. C'est lui qui avait arrêté et décapité l'ancien président Samuel Doe en 1990. Monsieur Johnson a toujours fait valoir qu'il était protégé par une amnistie générale dans le cadre d'un accord pour ramener la paix. Ce vote constitue la première étape vers le jugement des auteurs des violences qui ont fait environ 250 000 morts entre 1989 et 2003 au Libéria.
Le président américain Joe Biden a appelé mardi le Hamas à accepter un cessez-le-feu avant le Ramadan dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, les tractations se poursuivent et les médiateurs tentent de parvenir à une trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Jean-Roger Bion.
Des discussions difficiles doivent se poursuivre ce mercredi au Caire entre représentants de l'Égypte, des États-Unis, du Hamas et du Qatar, mais sans représentants israéliens. Les médiateurs tentent d'arracher un compromis sur une trêve de 6 semaines avant le début du Ramadan. C'est dans les mains du Hamas, a déclaré M. Biden, qui dit craindre une situation très dangereuse si la trêve n'intervient pas avant le début du Ramadan, le 10 ou le 11 mars. Il a ajouté que les Israéliens sont coopératifs et qu'une proposition raisonnable est sur la table pour permettre une libération d'otages retenus à Gaza, accompagnée d'une pause des combats. Les États-Unis, principal soutien d'Israël, ont par ailleurs réclamé avec de plus en plus d'insistance un cessez-le-feu. Joe Biden a assuré qu'il fallait faire entrer plus d'aide à Gaza, estimant qu'Israël n'a pas d'excuses pour restreindre l'entrée des convois qui attendent à la frontière avec l'Égypte. Sur le terrain, les bombardements israéliens se sont poursuivis dans le sud de Gaza, faisant 97 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, un condensé des nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Polognon.
L'or a atteint un nouveau sommet historique mardi, propulsé par les perspectives de baisse de taux de la réserve fédérale américaine suite à des données économiques moroses aux États-Unis qui profitent au métal jaune. Les inquiétudes concernant les perspectives économiques mondiales, les tensions géopolitiques et la bascule des attentes vers des réductions anticipées des taux d'intérêt ont alimenté la demande accrue pour le métal précieux, selon les experts. Le Bitcoin a aussi battu des records mardi. La crypto-monnaie a bénéficié de l'appel d'air engendré par un nouveau produit d'investissement. Le jeton numérique a ainsi dépassé son record historique de novembre 2021, où il avait atteint 68 991 dollars. Le gouvernement de la Banque centrale libyenne a dévalué le dinar mardi et a demandé au président du Parlement d'approuver un nouveau gouvernement unifié, élargissant ainsi son défi au Premier ministre à Tripoli. Les différends concernant le contrôle du gouvernement et l'accès aux finances de l'État libyen ont souvent été au cœur des rivalités entre factions depuis le soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011.
Et maintenant, la page sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Même sans sélectionneur, le Burkina Faso a prévu 2 matchs amicaux pour la prochaine fenêtre FIFA.
Oui, les étalons vont affronter la Libye et le Niger les 22 et 26 mars prochains au Maroc, sorti par le Mali en 8e de finale de la dernière CAN. Le Burkina Faso va connaître son nouveau sélectionneur demain, jeudi 7 mars. Pour rappel, en fait contrat, le bail d'Hubert Velut et son staff n'a pas été renouvelé par la Fédération burkinabé de football.
Suite des matchs retour des 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Les cas, c'était un rendez-vous que Manchester City de Pep Guardiola n'a plus raté depuis 2017. Les champions d'Europe en titre sont en pleine forme à l'image de Phil Foden, auteur d'un doublé dans le derby contre Manchester United, remporté 3-1 dimanche. Ce soir, les Sky Blues n'ont plus qu'à confirmer leur supériorité sur Copenhague, battu 3-1 à l'aller. De son côté, le Real Madrid, qui n'a plus raté les quarts de finale depuis 2020 et une élimination contre City, voudront confirmer leur victoire 1-0 à l'aller face au RB Leipzig.
La première promesse de contrat de Lionel Messi sur une serviette en papier, bientôt aux enchères.
La toute première promesse de contrat pour engager au FC Barcelone un certain Lionel Messi, 13 ans, fut signée sur une serviette en papier en 2000. Elle est exposée à New York avant sa prochaine mise aux enchères entre environ 380 000 et 635 000 dollars. Né en 1987 à Rosario en Argentine, Messi a 13 ans quand il est repéré par le Barça, mais tout le monde n'est pas convaincu au club Blaugrana et l'affaire traîne en longueur jusqu'à ce rendez-vous le 14 décembre 2000 dans un tennis club de Barcelone entre le directeur sportif du club et les agents Joseph Minguella et Horacio Gaggioli pour confirmer l'intérêt du club. Carles Rexach va alors écrire à l'encre bleue sur une simple serviette qu'il accepte sous sa responsabilité et en dépit de toute opinion divergente de faire signer le joueur Lionel Messi. Un contrat en bonne et due forme sera établi plus tard, mais l'agent argentin Horacio Gaggioli a gardé il y a près de 25 ans cette preuve initiale de l'accord qu'il a décidé de vendre aux enchères.
Ici aux États-Unis, une équipe de basketball universitaire
universitaire décide de se syndiquer.
L'équipe de Dartmouth College, université privée dans le New Hampshire, dans le nord-est, s'est prononcée à une très large majorité, 13 contre 2, pour rejoindre un syndicat. Les joueurs de cette équipe seront affiliés à l'antenne locale du syndicat international des employés de service. Ils deviennent ainsi les premiers joueurs universitaires de basketball à chercher à rejoindre un syndicat. Le fait de disposer d'une représentation doit potentiellement permettre aux joueurs de négocier leur paie potentielle, alors que les joueurs universitaires sont normalement des athlètes amateurs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Tchad, des signes de tension sont toujours perceptibles dans les rues de N'Djamena après la mort du leader de l'opposition, Yaya Diallo, tué la semaine dernière dans l'assaut de l'armée contre le siège de son parti. Un calme précaire règne dans l'attente de la présidentielle prévue le 6 mai prochain. Le point avec Jean-Roger Bion.
Quelques jours après l'assaut qui a coûté la vie à Yaya Diallo, le calme est revenu à N'Djamena et la plupart des blindés militaires déployés la semaine dernière ont disparu. C'est pourtant l'omerta et l'opposition politique s'est muée dans un silence. Sali Bakari est historien et enseignant-chercheur.
À partir du 28 février jusqu'à là, c'est comme s'il y a une espèce de timidité. C'est comme si le climat politique n'est plus le même. Il y a une espèce d'incertitude, il y a une espèce de peur qui s'est emparé de tout le monde.
Les événements se sont produits au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai, qui annonce la fin d'une période de transition de 3 ans. La candidature à l'élection présidentielle de Mahamat Idriss Déby Itno, samedi, est le seul événement mis en relief depuis. Une marche forcée vers un scrutin dans un délai très court que dénonce Sali Bakari.
Tous les efforts qui ont été faits à partir de 2021, après la mort du président Déby, jusqu'à aujourd'hui, c'était de dire qu'il faut faire en sorte que le Tchad soit un pays dans lequel la force de l'argument prend le dessus sur l'argument de la force. Mais avec ce qui s'est passé le 28 octobre, on a l'impression que c'est difficile. On a l'impression que c'est une nouvelle donne politique, c'est vraiment une incertitude.
Le 20 avril 2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été proclamé par l'armée président de la transition à la tête d'une junte de 15 généraux après la mort de son père Idriss Déby Itno. Il avait immédiatement promis de rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections après 18 mois et assuré plus tard qu'il ne s'y présenterait pas. Une promesse désormais passée aux oubliettes.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Ghana, comme dans de nombreux autres pays, les choix de carrière peuvent sembler limités pour les étudiants handicapés. Un journaliste ghanéen utilise le photojournalisme pour encourager les élèves d'une école pour sourds à élargir leurs horizons. Voyons cela dans ce reportage de Senanou Tord, relaté par Yakuba Ouedraogo.
À 17 ans, Job Nimbié n'a jamais prononcé un seul mot. Né avec des troubles de la parole et de l'audition, Nimbié et d'autres élèves ont trouvé leur voie grâce à la photographie. Nimbié se dit heureux de partager son parcours avec le monde entier par le biais de ses photos. Il veut inspirer d'autres personnes qui vivent avec un handicap. Job Nimbié utilise la langue des signes ghanéenne.
Je veux devenir médecin et servir ma nation. Je veux même devenir président du Ghana à l'avenir. Je veux servir mon peuple.
Mais Nimbié et ses pairs sont confrontés à des défis importants, notamment la discrimination. D'autres obstacles sont la formation et les ressources limitées. Le service statistique du Ghana estime que seule une fraction des enfants souffrant d'un handicap auditif est en mesure de poursuivre des études supérieures. Mais Nimbié est resté déterminé.
Si je ne parviens pas à devenir médecin, je deviendrai photographe et je pourrai prendre beaucoup de photos qui vont communiquer avec le reste du monde. Je partagerai nos histoires avec le monde, je vais sensibiliser l'opinion publique et je gagnerai ma vie grâce à cela.
La photographie a été introduite à l'école des sourds de Savelougou par Geoffrey Bouta. Ce photojournaliste primé mène une campagne visant à amplifier les voix marginalisées par le biais de la narration visuelle. Son projet Photo for Change s'articule autour d'un objectif précis.
Former les gens ou les aider à raconter leur propre histoire dans les communautés où ils se trouvent et utiliser la photographie ou les images pour aborder des questions sociétales.
Address societal issues.
Le club photo de Bouta propose des cours de photojournalisme. En moins d'un an, les élèves peuvent prendre eux-mêmes des photos de qualité et rédiger des légendes.
Grâce au pouvoir de la photographie, ils peuvent raconter des histoires autour d'eux. Ils peuvent devenir des journalistes visuels à l'avenir, des radiodiffuseurs.
Les enseignants en profitent aussi car le club leur permet d'accéder facilement à du matériel pédagogique visuel. Nora Nasso est la directrice de l'école pour sourds de Savelugu.
Vous avez vu une photo quelque part qui a un rapport avec ce que vous allez faire, la leçon que vous allez donner. Vous utilisez donc l'appareil photo pour prendre cette photo, vous la portez en classe, vous la montrez aux enfants et vous pouvez ensuite développer votre leçon à partir de là.
Bouta prévoit d'étendre son projet à 10 autres écoles du Ghana, créer des expositions pour présenter les travaux des élèves et organiser des stages dans les médias. À long terme, il souhaite inspirer une génération d'étudiants handicapés à devenir des photojournalistes primés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Haïti, la capitale Port-au-Prince est paralysée au surlendemain de la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement suite à l'évasion de milliers de détenus de prison attaqués par des gangs. De nouveaux coups de feu ont résonné à Port-au-Prince où les écoles et les banques sont restées fermées. Idriss Fall a joint Clarence Renoir, ancien correspondant de la VOA et ancien candidat à la présidence.
C'est une situation chaotique où les groupes armés ont le contrôle de la capitale à 80%. Depuis que les gangs ont lancé cette attaque, ils ont le contrôle, ils ont le contrôle de la capitale. C'est une situation très chaotique, il y a beaucoup de victimes, et l'État est totalement absent.
L'État absent et on veut faire venir des Kenyans et des Béninois pour rétablir l'ordre.
Ça ne peut être qu'une solution passagère, une solution conjoncturelle, parce que aujourd'hui les forces nationales de sécurité sont inefficaces. Elles en ont fait la preuve depuis plus de 30 mois et même plus. Ils n'ont pas pu permettre un fonctionnement normal du pays. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut bien une structure internationale pour aider les forces de sécurité nationale et favoriser la reprise des activités académiques, activités commerciales et la vie tout court. Parce qu'aujourd'hui, Haïti a beaucoup de difficultés. Port-au-Prince, la capitale, est paralysée complètement.
Mais les Américains avaient déjà essayé par le passé, non? Et qu'ils ont dû plier bagage eux-mêmes.
Tout à fait. Une force internationale, ce n'est pas la solution au problème d'Haïti. Il faut reconstituer les forces haïtiennes, il faut les responsabiliser, il faut les équiper, les entraîner et opérer une sorte d'épuration aussi au sein des forces. Parce que ces forces sont liées aussi parfois aux groupes armés illégaux. Donc, pour permettre à Haïti de prendre en charge sa propre sécurité. Vous avez raison, il y avait eu une mission des Nations Unies qui a passé 15 ans en Haïti. À son départ, on est retombé dans les mêmes travers, dans les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, la force internationale, si elle vient, elle ne doit être qu'une force de soutien temporaire pour permettre la reprise des activités, pour permettre d'arriver aux élections. Il faut mettre des autorités légitimes en place et ensuite que les forces haïtiennes puissent être en mesure de prendre la relève.
Et on a entendu il y a quelques jours ou quelques semaines une inculpation de l'ex-première dame dont le mari, l'ancien président, a été assassiné et qu'elle-même elle était blessée durant cette attaque.
J'hésite de commenter une décision de la justice. Bon, ce n'est même pas encore une décision, c'est une enquête qui a conduit à une série d'inculpations. Parmi les personnes inculpées, effectivement, figure le nom de l'ancienne première dame, des proches collaborateurs du président de la République, etc. Donc, il faut laisser aller cette enquête pour voir, mais de toutes les manières, c'est très pas clair pour le moment, parce qu'il y a aussi une enquête qui est menée aux États-Unis, qui a déjà fait des condamnés, des gens qui sont condamnés à vie et qui ont avoué avoir pris part à cet assassinat. Donc, vous avez une enquête qui se conduit sur deux pays, et avec des inculpés des deux côtés, c'est un peu confus. Je crois que la première dame ou les autres personnes qui sont inculpées auront la chance de se défendre, de se présenter devant la justice haïtienne, si elles le veulent bien, pour présenter leur version des faits et faire avancer cette enquête pour donner justice au président assassiné.
Clarence Renoir, ancien correspondant de la VOA et ancien candidat à la présidence de Haïti.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une dizaine de femmes de différents pays ont été honorées lundi à la Maison-Blanche pour leur activisme dans la défense des droits de l'homme et des femmes. C'était en présence de la correspondante de la VOA, Veronica Balderas Iglesias, qui nous présente les points forts des prix internationaux du courage féminin 2024. Le récit est de Nathalie Barge.
Sous la houlette de la première dame Jill Biden et du secrétaire d'État américain Antony Blinken, une cérémonie s'est déroulée à la Maison Blanche en l'honneur des lauréates du prix international Femmes de Courage 2024. Antony Blinken a qualifié leur travail d'extraordinaire.
They're advocating for domestic workers in Bangladesh.
Elles défendent les travailleurs domestiques au Bangladesh et les personnes handicapées en Afghanistan. Elles dénoncent la corruption en Ouganda, luttent contre le harcèlement sexuel au Japon. Elles défendent les enfants déchirés par la guerre, les enfants violés en Bosnie-Herzégovine. Elles luttent pour la démocratie en Biélorussie.
Il est important de faire entendre la voix des femmes courageuses, comme celle des lauréates de cette année, a déclaré la première dame Jill Biden.
Your great acts of courage.
Vos grands actes de courage peuvent inspirer les autres à accomplir les leurs, petits et grands. C'est un chant du futur qui se répercute en nous pour que nous puissions, nous aussi, être des chercheurs de justice, des défenseurs de la liberté.
L'activiste iranienne Fariba Baloutch figurait parmi les femmes récompensées. Elle a fait l'objet d'un documentaire de La Voix de l'Amérique. Madame Baloutch est membre du groupe ethnique marginalisé des Baloutch et a fait la lumière sur la crise des droits humains dans la province iranienne du Sistan et Baloutchistan, malgré les intimidations dont elle a été l'objet. La lauréate gambienne Fatou Baldé a parlé de son propre combat pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.
L'élimination des mutilations génitales féminines en 2030 est une cible spécifique du 5e objectif de développement durable des Nations Unies. Pourtant, rien qu'en 2024, plus de 4 millions de filles risquent de subir des mutilations génitales féminines dans le monde.
Alors que 11 femmes ont été honorées en personne, le gouvernement cubain a empêché la dissidente Marta Beatriz Roque Cabello de quitter l'île pour recevoir son prix. Le travail de 9 femmes du Nicaragua, qui faisaient partie d'un groupe de prisonniers politiques libérés l'année dernière, a également été récompensé in absentia par Amy Ruiz, directrice de la stratégie politique et la sensibilisation à la Maison-Blanche.
Tous ceux qui luttent sans relâche et au péril de leur vie contre la corruption, la répression, la discrimination, le harcèlement et pour la dignité.
Pendant leur séjour aux États-Unis, les lauréates participent non seulement à des réunions politiques de haut niveau et à des conférences publiques, mais elles se rendront également à Los Angeles pour rencontrer leurs homologues américains et travailler avec eux.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TTU dans L'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans L'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et de discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
Ainsi s'achève cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, notre site internet, c'est www.voaafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.